Le journal avec vous, bonjour Frédéric Bagnada.
Bonjour. Il n'aimait pas les Américains et voulait protéger le Roquefort. Il y a 20 ans, jour pour jour, le démontage du McDo de Millau, un acte fort considéré comme l'un des fondements de la lutte altermondialiste. Invité de ce journal, l'ancien député européen José Bové qui nous dira ce qui a changé et si 20 ans après, sa détermination reste la même. Dans cette édition, nous reviendrons sur cette énième agression homophobe la semaine dernière à Paris contre un militant LGBT tunisien, Sarah Guibaudot.
Et c'est un traumatisme d'autant plus fort pour la victime que Nidal Belarbi s'était réfugié en France pour fuir l'homophobie dans son pays. Il a été porte-parole d'une association qui défend les droits des LGBT et dont un autre militant, Mounir Batour, se présente à la présidentielle en Tunisie. Nidal Belarbi a été roué de coups près de la Bastille.
Sarah Guibaudot, les répercussions de l'affaire Epstein en France. Retrouvé mort dans sa cellule aux États-Unis, deux membres du gouvernement, Marlène Schiappa et Adrien Taquet, réclament l'ouverture d'une enquête contre l'homme d'affaires accusé d'exploitation sexuelle de mineurs. Les obsèques ce matin en l'église Saint-Sulpice de Jean-Pierre Mocky, franc-tireur du cinéma français, décédé jeudi dernier à l'âge de 90 ans. Quel temps pour cet après-midi perturbé et plus frais, Elodie Calac.
Effectivement, c'est un peu frais, 18 à 25 degrés, encore 26 à 32 pour le sud-est, et puis côté ciel, c'est variable avec quelques averses plus nombreuses au nord, avec des orages possibles, notamment du bassin parisien aux frontières du nord, avec du grésil, du vent, et puis des orages aussi des Alpes à la Côte d'Azur avec de la grêle.
Elodie Calac. Mais d'abord, cet avertissement de l'ONU. Le transfert de djihadistes français est extrêmement grave et a donné lieu à plusieurs violations du droit international. C'est la critique adressée aujourd'hui dans une lettre à la France par Agnès Callamard, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires, s'interroge sur le transfert de 7 Français de l'État islamique condamnés à mort en Irak. Les précisions à Erbil de William Fache.
Agnès Callamard dénonce le transfert illégal de ces 11 djihadistes français. Des combattants qui, selon elle, ont été extradés de Syrie vers l'Irak grâce au soutien actif ou passif des autorités françaises. Une démarche, dit-elle, contraire à la justice la plus élémentaire.
Où est le processus de justice ? Où est le processus de vérité ? Si la France a été impliquée dans ces transferts, elle a violé une norme absolue en droit international qui est qu'un État qui a aboli la peine de mort ne peut en aucun cas transférer un individu dans un pays où la peine de mort continue d'être pratiquée.
Maître Nabil Boudi est l'avocat de 7 de ces Français transférés en Irak. Il espère en savoir davantage sur le rôle de Paris, qui a toujours refusé de rapatrier les djihadistes français pour les juger. Il dénonce des procès inéquitables.
Un procès expéditif, ça signifie qu'il n'y a pas de procès, justement. Comment ça s'est matérialisé en Irak pour les ressortissants européens ? Des audiences qui ont duré 20 minutes pour chaque accusé. Des avocats commis d'office qui n'ont pas eu accès au dossier. Et des avocats français qui ont été empêchés.
Nabil Boudi fait d'ores et déjà savoir qu'il compte porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Erbil, Wilson Fache, France Inter.
Il y a 20 ans, le 12 août 1999, débutait en France le combat contre la malbouffe. Avec un acte très symbolique, le démontage du McDo de Millau dans l'Aveyron. À la manœuvre, 300 éleveurs de brebis du Larzac et des agriculteurs rassemblés autour de José Bové. Il s'agissait à l'époque de dénoncer la décision des États-Unis de surtaxer le Roquefort, un acte fort devenu le symbole de la lutte contre la malbouffe et qui fut à l'origine du mouvement altermondialiste en France. Ce matin, comme il y a 20 ans, des éleveurs, mais aussi des gilets jaunes et des manifestants communistes se sont mobilisés à Millau. C'est un reportage d'Evelyne Ferry.
Le 12 août 1999, Christian, éleveur de brebis, s'en souvient très bien.
On s'est dit, non, on peut pas se laisser marcher sur les pieds le Roquefort. Donc, automatiquement, il faut qu'on agisse. Et donc, voilà, on s'est tous mis à l'œuvre. Et on s'est mis à démonter le McDo. Et bien sûr, il n'y a pas de souci, on était super contents d'enlever cet emblème au milieu du pays des Roquefort.
Et aujourd'hui, comme il y a 20 ans, les éleveurs ne sont pas seuls. Georges, militant communiste, est là, encore une fois, pour les soutenir.
J'ai rencontré José dans un kiosque à journaux, 2 ou 3 jours avant. Il m'a dit, voilà, tel jour, on se mobilise. Alors si vous voulez participer, on va s'occuper du McDo. On ne savait pas l'impact national et international que ça allait avoir. En tout cas, on était conscients de ce que ça représentait.
Convergence des luttes oblige. Des gilets jaunes sont aussi présents parmi la centaine de manifestants. Il y a 20 ans ici, on défendait le Roquefort face à la malbouffe et au bœuf aux hormones américains. Aujourd'hui, ils sont là pour dire leur inquiétude face au CETA et au Mercosur, les accords de libre-échange. Tous le répètent, le combat est loin d'être terminé. Amis, Emeline Ferry pour France Inter.
Bonjour José Bové.
Bonjour.
Alors, 20 ans après, la moustache a blanchi, mais la détermination est toujours la même ?
Ah, écoutez, je crois que le combat qui a été enclenché il y a 20 ans, mais je dirais même beaucoup plus tôt, puisque les premières actions contre le bœuf aux hormones et contre l'alimentation industrielle, l'agriculture industrielle, ont démarré dès le début des années 80. Et c'est vrai qu'à l'occasion du démontage, c'était clairement effectivement cette opposition entre une appellation d'origine et le bœuf aux hormones que l'Union européenne interdisait sur son territoire, qui a mis le feu aux poudres. Aujourd'hui, bien d'autres accords existent. À l'époque, c'était l'Organisation mondiale du commerce. Maintenant, c'est le CETA, le traité avec le Canada, ou le Mercosur. Et là, derrière, on a à nouveau les anabolisants, on a à nouveau les OGM, on a à nouveau, par exemple, le chlore pour laver les poulets, etc. Et je dirais en même temps la destruction des agricultures au nord comme au sud. Et c'est bien ça le problème qui est soulevé. C'est que dans tous ces accords de libre-échange aujourd'hui, l'agriculture, quand on n'a plus rien à négocier, on cède sur l'agriculture en se disant on n'est pas à quelques centaines de paysans près, sauf qu'en réalité, ça fait des milliers, accord après accord, et c'est ce qui met en colère, je dirais, le monde rural qui est sacrifié sur l'intérêt, en fait, de quelques multinationales.
José Beauvais, si c'était à refaire, 20 ans plus tard, est-ce que vous feriez exactement la même chose ?
Écoutez, vu l'écho, vu qu'on en parle encore 20 ans après, je me dis qu'on n'a pas dû se tromper véritablement de cible. Et c'est surtout le fait, il ne faut pas dire une boutade, qu'en fait les gens ont compris qu'à travers cette action qui opposait le Roquefort et la restauration rapide, la junk food, comme disent les Américains, eh bien, on opposait la question du manger local à... l'alimentation mondialisée. Et la mondialisation rentrait pour la première fois dans l'assiette, dans la vie quotidienne de chacun, et chacun pouvait se dire, j'accepte ou je n'accepte pas. Et c'était le point de départ de 20 ans de mobilisation altermondialiste qui, aujourd'hui, se développe de plus en plus avec aussi la question du réchauffement climatique, puisque ces accords de libre-échange sont l'opposé des solutions au problème du réchauffement climatique.
La désobéissance civile pour faire avancer une cause, pour faire avancer les choses, c'est le seul moyen d'agir aujourd'hui ? D'être entendu ?
Le père de la désobéissance civile s'appelait Henry David Thoreau, c'était aux États-Unis, et il disait que la désobéissance civile est l'action des citoyens face à une crise dans une situation, dans un pays démocratique. Eh bien, effectivement, je pense que la désobéissance civile, qui est de dire non à une loi, de désobéir de manière délibérée en assumant ses actes, en agissant à visage découvert et en acceptant éventuellement d'aller au tribunal et même en prison, eh bien, c'est l'action que chaque citoyen peut mener. Parce que quand les dangers sont graves, quand ils sont imminents, c'est le réchauffement climatique, c'est la disparition des paysans, c'est la santé des consommateurs. Je crois que c'est le devoir de chacun d'agir, même si ça va contre les lois. Il y a 30 ans, quand on a commencé à faucher des OGM, 20 ans plus tôt, on nous a dit que c'était illégal, on est passé en procès. 20 ans après, les OGM sont interdits sur l'ensemble des territoires européens. Ça ne veut pas dire que ce combat est définitivement gagné, parce que les firmes essayent d'utiliser des nouveaux OGM, mais pour autant, c'est déjà une grande avancée, et je crois qu'on l'a obtenu grâce et par la désobéissance civile non violente.
Merci José Beauvais, invité de ce journal.
France Inter, le journal de 13h. Frédéric Beniada.
Dans le reste de l'actualité, une nouvelle agression homophobe dans la capitale. Un militant d'une association LGBT tunisienne a été roué de coups dans la nuit de jeudi à vendredi dernier dans le 11e arrondissement de Paris, agressé par quatre personnes qui l'auraient reconnu dans la rue. Sarah Guibaudot, vous nous racontez la suite.
Oui, Nidal Belarbi a 30 ans. Il a été persécuté en Tunisie où l'homosexualité est encore un délit. Il y a été agressé, emprisonné, torturé. Il venait d'obtenir l'asile politique en France et voilà que dans le 11e arrondissement de Paris, jeudi dernier vers minuit, il est violemment pris à partie. Il pense même avoir reconnu un homme qu'il avait attaqué de l'autre côté de la Méditerranée. Le récit du militant Louis-Georges Tain qui héberge Nidal Belarbi.
Il rentrait à la maison et sur le chemin, son agresseur de 2013, qui se trouvait là par hasard, en tout cas il travaille semble-t-il dans un bar de cette rue, cet agresseur a ramené trois autres personnes pour agresser M. Belarbi au moment où il tapait le code pour rentrer à la maison.
Nidal Belarbi est frappé à la tête et dans les côtes. Il souffre de nombreuses contusions, mais le plus dur, c'est le choc psychologique, constate son ami Louis-Georges Tain. Son agresseur l'aurait une nouvelle fois poursuivi à l'arrivée des secours, ouvrant la porte du camion de pompiers qu'il avait pris en charge. L'enquête est ouverte pour violence volontaire en réunion à raison de l'orientation sexuelle de la victime et confiée au commissariat du 11e arrondissement.
Sarah Guibaudot, c'est un cancer qui pourrait être facilement évité. Pourtant, 80 000 nouveaux cas de cancer de la peau, 11 000 mélanomes sont diagnostiqués chaque année en France, un chiffre qui a plus que doublé en 10 ans. Et en cette période estivale, propice aux expositions au soleil, la Ligue contre le cancer lance une campagne de prévention. Écoutez le docteur Emmanuel Ricard, il est délégué à la prévention et à la promotion du dépistage à la Ligue contre le cancer.
Le problème du mélanome, c'est que dès qu'il vient un peu trop épais, et ça se joue à quelques millimètres près, il s'inscrit profondément avec des risques de métastases importants. Donc il a l'avantage d'être souvent visible. Dès que vous avez plus de 30-50 grains de beauté, il faut avoir un dermatologue et aller le voir régulièrement pour qu'ils puissent voir l'évolution. C'est encore plus important de les montrer, donc en particulier sur les zones que vous ne voyez pas. Je pense par exemple aux chauves sur le dessus de la tête ou quand on en a dans le dos. Donc le principe, c'est si vous avez une lésion cutanée qui ne régresse pas, qui ne cicatrise pas, si vous avez un nouveau grain qui apparaît alors que vous êtes à l'âge adulte, si vous avez tendance à avoir des bords changés, des couleurs changées, ou si vous le voyez grossir, il faut consulter.
Le docteur Emmanuel Ricard de la Ligue contre le cancer avec Daniel Messager. À Menton, un sans domicile fixe armé d'un couteau tué par un policier. Hier soir, apparemment, le SDF voulait se suicider. Il s'était entaillé les veines. Les policiers ont tenté en vain de parlementer pour lui faire lâcher son couteau. L'un d'eux a tiré. La police des polices a ouvert une enquête. Les obsèques de Jean-Pierre Mocky, célébrées ce matin en l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris. Des obsèques en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre de la Culture, Franck Riester, venu rendre un dernier hommage au mauvais garçon du cinéma français. Marine Protet a assisté à la cérémonie.
Ils étaient plusieurs centaines à venir rendre hommage au cinéaste dans une ambiance assez festive. Certains ont chanté en haut des marches de l'église, d'autres ont préféré attendre en bas l'arrivée du cercueil longuement applaudi. C'est le cas de Patrick, il connaissait bien Jean-Pierre Mocky, il a joué le rôle de figurant dans trois de ses films et il en garde de très bons souvenirs, alors ce matin, il n'est pas venu les mains vides.
Je tiens un panneau avec écrit dessus « moteur » parce que normalement pour Mocky, on devrait dire merci, mais je pense qu'il préfère qu'on dise « moteur » parce que pour lui, il n'y a jamais de clap de fin, même dans l'au-delà. C'était quelqu'un avec qui on s'entendait bien et paradoxalement, quand on tournait avec lui, il était d'une étonnante gentillesse.
Étonnante parce que ce n'est pas l'image qu'en garde la majorité de ses fans. Michel se souvient surtout d'un personnage sans langue de bois, souvent invité sur les plateaux télévisés, justement pour animer les débats.
À chaque fois qu'il passait à la télé, moi je regardais. Hein, ou quand il attaque un peu les curés aussi, bon, il est quand même pas très gentil. Hein, mais bah, au moment où il a sorti le film Le Miraculé, il y avait eu des échauffourées à l'époque assez notables.
Hein. Jean-Pierre Mocky s'attaquait à tout le monde. Il se moquait notamment des institutions, des politiques, de l'argent, mais aussi et surtout de l'Église. Alors voir un hommage religieux se tenir aujourd'hui en fait sourire plus d'un.
Mocky à l'église, ça dépasse l'entendement.
L'affaire fait grand bruit aux États-Unis et alimente toutes les spéculations. Le milliardaire Jeffrey Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule new-yorkaise samedi dernier, un suicide apparent selon la justice américaine après la publication la veille de centaines de pages des documents sur les orgies sexuelles avec des mineurs organisées par Epstein. Il n'y aura donc pas de procès sur les réseaux sociaux. Il se dit que le financier aurait été assassiné pour éviter que des noms soient dévoilés. Une thèse nourrie par Donald Trump qui pointe du doigt Bill Clinton. En France, deux ministres, les secrétaires d'État Marlène Schiappa et Adrien Taquet réclament l'ouverture d'une enquête. Sous pression de la Chine, la compagnie de Hong Kong Cathay Pacific menace de licencier ses employés qui participent ou soutiennent les manifestations des pro-démocraties. Hier encore, des heurts ont opposé manifestants et policiers. Depuis ce matin, plus de 5000 manifestants occupent l'aéroport de Hong Kong. Conséquence, tous les vols au départ ou à l'arrivée ont été annulés. À Hong Kong, la correspondance d'Angélique Forget.
Voici ce qu'indiquent les panneaux d'affichage et les haut-parleurs ici dans l'aéroport de Hong Kong. Plus aucun avion ne décolle, plus aucun avion n'atterrit, sauf ceux qui sont déjà en vol. Depuis cette annonce, j'ai vu beaucoup de manifestants quitter les lieux. Ils sont moins nombreux qu'il y a quelques heures, mais ils prononcent toujours les mêmes slogans. Libérer Hong Kong, Hong Kong soit forte. Sur certaines pancartes, j'ai pu lire « Nous sommes Hongkongais, nous ne sommes pas chinois ». En fait, cet aéroport, ils l'occupent depuis vendredi déjà, mais aujourd'hui, ils sont venus beaucoup plus nombreux que ces trois derniers jours, car ce week-end, on a assisté à un durcissement de la répression policière. Des forces de l'ordre ont tiré à bout portant des balles en caoutchouc dans le dos des manifestants. Une jeune infirmière a eu l'œil blessé. Des policiers ont roué de coups des personnes au sol, mais visiblement, ces violences ont ravivé les motivations des manifestants. Pourtant, ils le savent, car Pékin les a prévenus. Si la contestation ne s'éteint pas, la répression sera plus forte.
L'Italie en plein doute après l'éclatement de la coalition gouvernementale ce week-end. Le chef de la Ligue réclame des élections anticipées. Les sénateurs doivent aujourd'hui se prononcer sur l'avenir du gouvernement de Giuseppe Conte à l'agonie depuis sa mise à mort par Matteo Salvini. Un nouveau président pour le Guatemala, le conservateur Alessandro Giammattei, est élu avec un petit peu plus de 58% de suffrages face à la candidate de centre-gauche. Le futur dirigeant prendra ses fonctions en janvier prochain. Il promet de combattre les criminels et les trafiquants de drogue de son pays et devra faire face à un défi majeur après la signature d'un accord impopulaire avec les États-Unis pour lutter contre l'immigration clandestine. Au chapitre économique, à présent, PSA décide d'abandonner deux usines en Chine. Agir pour ne pas subir, explique Carlos Tavares, le patron du groupe automobile. Il faut dire, Maxime Debs, que les résultats de PSA en Chine n'ont jamais vraiment été au rendez-vous.
Et le groupe connaît une baisse de ses ventes en Asie. Sur le marché chinois, ce sont 250 000 voitures PSA à peine qui se sont vendues l'an dernier, trois fois moins qu'il y a cinq ans. La demande intérieure régresse donc en Chine, mais PSA aujourd'hui se garde de tout commentaire. Selon l'agence Reuters, sur les cinq usines que détient aujourd'hui PSA, une pourrait être fermée demain, une autre cédée. L'autre cause de cette remise en question peut être la crise entre les États-Unis et la Chine. Certains constructeurs qui assemblaient leurs modèles en Asie avant de les envoyer aux États-Unis vont désormais devoir passer par l'Europe et cela pourrait donc être une mesure de précaution pour PSA. Ces dernières semaines, ces derniers mois, d'autres constructeurs comme Kia, Ford ou Hyundai avaient, avant PSA, déjà annoncé leur intention de réduire leurs effectifs en Chine.
Merci Maxime. Le foot côté tribune, Neymar, désormais indésirable au Parc des Princes. La star brésilienne s'est fait conspuer par les supporters du PSG hier soir. Neymar en partance, qui n'était pas sur le terrain et qui visiblement a fait tout pour se faire détester des Parisiens. Le Brésilien n'est plus le bienvenu au Parc des Princes, mais ça fait plutôt ses affaires, Cédric Guillou.
Les scènes d'hostilité à Neymar hier soir au Parc des Princes n'ont pas dû émouvoir plus que cela la star brésilienne. On irait même jusqu'à dire qu'elles servent ses intérêts alors qu'il cherche à quitter le Paris Saint-Germain depuis le mois de mai. Le PSG ne peut plus se permettre de garder un joueur détesté par ses plus fervents supporters. Et on voit mal, dans ce contexte, comment Neymar pourrait un jour porter de nouveau le maillot du PSG, même si son transfert échoue. Mathieu est supporter parisien depuis 25 ans.
Il n'a pas donné ce qu'il avait donné au club, en tout cas, je pense. Il n'est pas autour de son niveau depuis 2 ans. Il vaut mieux qu'il parte pour se rénover autre part et qu'on puisse recruter autre chose, parce qu'il coûte quand même assez cher au club.
Aujourd'hui, seuls le FC Barcelone et le Real Madrid semblent en mesure économiquement d'accueillir Neymar. La star brésilienne qui devra cravacher pour recoller les morceaux avec les fans du PSG s'il ne devait pas quitter le club avant la fin de l'été.
Rappelons que Neymar a coûté au Paris Saint-Germain 222 millions d'euros. Les rois de la pop sud-coréenne sont fatigués. Le groupe BTS, traduisait du coréen Boy Scout résistant au bal, va prendre quelques semaines de vacances après avoir enchaîné les concerts dans le monde entier. Une pause pour profiter de la vie ordinaire de jeunes de 20 ans, précise leur agent. À Séoul, Frédéric Ojardias.
Un jour après que leur dernier single a dépassé le demi-milliard de vues sur YouTube, les 7 chanteurs de BTS prennent leur tout premier congé depuis 6 ans. Il est temps pour eux de recharger leur batterie et de vivre une vie de jeunes hommes ordinaires, c'est justifier leur agence. Souvent comparés aux Beatles, les artistes de BTS ou Bangtan Sonyeondan en coréen se sont fait connaître dans le monde entier grâce à leur sourire ravageur, leur chorégraphie millimétrée et leur communication impeccable sur les réseaux sociaux. Leurs derniers concerts dans des stades aux États-Unis ou en Europe ont fait salle comble. Leur succès est tel qu'il a provoqué un bond du nombre de touristes en Corée et une hausse des exportations coréennes de mode et de produits cosmétiques. BTS a des millions de fans ultra dévoués qui se surnomment eux-mêmes l'armée. Une armée qui a déjà pris le clavier pour souhaiter de bonnes vacances à ses idoles. Des vacances méritées mais limitées, un concert est déjà annoncé début octobre en Arabie Saoudite. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Et puis Alain Delon, tout sourire, son plus jeune fils, Alain Fabian, a publié hier soir une photo rassurante de l'acteur de 83 ans. La star est toujours en convalescence en Suisse. Après un accident cardiovasculaire et une hémorragie cérébrale, Alain Delon, qui a tenu à remercier ses fans pour leur soutien. L'été fait un pas en arrière, moins beau, plus frais. La météo signée Elodie Calac.
Le ciel est changeant cet après-midi, près de l'océan, sur le sud-ouest, jusqu'au massif central, au Lyonnais, à l'Alsace, des éclaircies, mais aussi quelques averses. Entre les côtes de la Manche, le centre, le nord et la Lorraine, là des éclaircies, mais plus d'averses et un risque d'orage. Ça devient d'ailleurs plus actif du bassin parisien à la frontière belge, avec du grésil possible, des rafales de vent jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Des orages aussi entre les Alpes et la Côte d'Azur, avec de la grêle. C'est du Roussillon à la basse vallée du Rhône qu'on a le plus de soleil, avec du vent jusqu'à 80 km à l'heure pour la tramontane. Il fait plus frais, c'est juste pour la saison. 18 degrés à Brest, à Deauville, 22 à Lille, Nancy, Nantes et Limoges, 23 degrés à Paris, à Toulouse, 25 à Lyon, 31 pour Montpellier et 32 pour Ajaccio. Demain, de nouvelles averses orageuses avec du grésil entre l'Île-de-France et le nord de la Seine. Avantage pour le soleil ailleurs après la dissipation de la grisaille matinale.